Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. La Palestine toujours en débat à l'ONU après la demande d'admission déposée par le président palestinien Mahmoud Abbas le 23 septembre dernier lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Entre-temps, la Palestine a franchi un pas supplémentaire en étant admise tout récemment, le 31 octobre dernier, en tant que membre à part entière de l'UNESCO, l'organisation en charge de la culture qui dépend des Nations Unies. Regard sur cette entrée de la Palestine à l'UNESCO et sur les discussions à l'ONU sur fond de mécontentement d'Israël et des États-Unis. L'occasion aussi de faire un point sur un vieux débat qui, soulevé dès le début du XXe siècle, revient au premier plan de l'actualité. Israël et la Palestine doivent-ils former un ou deux États? C'est aussi le titre d'un ouvrage collectif qui vient de paraître sous la direction de Dominique Vidal, journaliste et historien spécialiste des questions internationales et du Proche-Orient en particulier. Dominique Vidal est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Et avec lui, Julien Salingue, enseignant en sciences politiques et doctorant à l'Université Paris 8, auteur de « À la recherche de la Palestine, au-delà du mirage d'Oslo » aux éditions du Cygne. Bonjour Julien Salingue.
Bonjour.
Et vous entendrez également une interview de Youssef Courbage, chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques, qui nous parlera de l'étonnant renversement des démographies israéliennes et palestiniennes. Israël et la Palestine doivent-ils donc former un ou deux États? Soulevé dès le début du XXe siècle, ce vieux débat revient au premier plan de l'actualité. Est-ce que c'est la demande d'admission de l'autorité palestinienne au sein des Nations Unies qui l'a fait ressurgir, Dominique Vidal?
Je ne crois pas, pour être franc. Je crois que ce qui se passe à l'ONU est un moment important du point de vue politique, mais là, on est dans un débat qui vient de loin et qui, je le crois, ira loin. Moi, je me souviens de toutes les conférences que j'ai pu faire depuis 20 ou 30 ans sur ce sujet. On a toujours eu la question, toujours. Quelqu'un disait, mais un État ou deux États? Et c'était un débat un peu théorique. Il est en train de redevenir un débat politique, à mon avis, pour trois raisons. La première, c'est le gouvernement israélien qui est le pire de l'histoire de ce pays, le plus fermé à toute perspective de paix. Donc, il y a un mur, si vous voulez, c'est le cas de le dire, sur lequel se cognent les espoirs palestiniens, arabes, mondiaux. Deuxièmement, donc, un échec pour le mouvement national palestinien, que ce soit le Fatah, qui depuis 1974 s'est mis dans la piste de la lutte diplomatique pour un État palestinien aux côtés d'Israël, que ce soit le Hamas, dont la lutte armée n'a pas non plus, on le voit à Gaza, abouti à des résultats. Bref, un mouvement en crise. Et troisièmement, du coup, une réflexion stratégique qui, au lieu d'être une réflexion d'intellectuel plus ou moins fumeuse, si je peux me permettre cette expression, redevient un véritable débat, aussi bien d'ailleurs, paradoxalement, en Israël qu'en Palestine. On le sent dans ce livre, qui est un livre collectif, où les gens ont des sensibilités diverses et des expertises diverses. C'est la raison pour laquelle on les a réunis. On sent bien que c'est à nouveau un débat de masse.
Alors, on en reviendra au détail du livre, Dominique Vidal. On s'en tient pour l'instant à l'actualité. La Palestine qui vient donc de faire son entrée à l'UNESCO. Quelle réflexion cela vous inspire et quel bénéfice éventuellement elle peut en tirer, Julien Salingue?
Première réflexion, c'est une confirmation de ce qu'on sait maintenant depuis des décennies, c'est qu'il y a une majorité d'États dans le monde aujourd'hui qui reconnaît l'existence d'un peuple palestinien et qui reconnaît l'existence d'une terre qui devrait être attribuée au peuple palestinien. Donc ça, c'est une énième confirmation, j'ai envie de le dire, après le nombre de résolutions des Nations Unies, etc., etc. Deuxième élément, disons que cette admission, ça va être un moyen pour Mahmoud Abbas et ses proches de ne pas rentrer à Ramallah les mains vides. C'est-à-dire qu'ils auront quand même gagné quelque chose sur le plan diplomatique, même si... Après, il faut relativiser la chose. On est quand même en grande partie dans le domaine du symbolique, puisque l'UNESCO n'a pas les moyens, il n'y a pas de mécanisme contraignant vis-à-vis de l'État d'Israël. Donc, quand bien même l'autorité palestinienne demanderait que un certain nombre de sites historiques, culturels, religieux soient admis au patrimoine mondial de l'humanité, il n'y a pas de mécanisme contraignant qui pourrait obliger Israël à s'en retirer ou à ne pas y toucher, entre guillemets. Et puis une dernière remarque, on n'a pas assez souligné, je crois, le résultat des votes. C'est-à-dire qu'il y a eu 107 pays qui se sont prononcés pour l'admission de la Palestine à l'UNESCO. Et depuis plusieurs mois, la direction de l'autorité palestinienne expliquait qu'elle avait sécurisé, entre guillemets, 130 voix à l'Assemblée générale des Nations unies pour être admis comme État membre. Ce qui montre que finalement, les choses sont peut-être moins évidentes que la direction Abbas voulait le dire. On sait que c'est pas exactement le même vote, mais quand on sait qu'il y a des pays qui ont dit qu'ils avaient voté pour à l'UNESCO, mais qui s'abstiendraient au Conseil de sécurité, ça montre qu'il y a peut-être un certain nombre de pressions, y compris de la part des États-Unis et autres, qui commencent à porter leurs fruits sur l'admission de la Palestine dans les instances de l'ONU.
Vous pensez là à la France, Dominique Vidal?
Je voudrais dire, si nous étions là pour débattre de cette bataille diplomatique en cours à l'ONU, je partage pas complètement le pessimisme, disons, de Julien. Je crois qu'il y a des éléments assez réussis du point de vue de l'offensive diplomatique qui a été menée, pour des tas de raisons, et aussi des raisons politiques internes. Mais c'est pas l'objet de notre débat. Ce qui, de toute façon, est clair, et là-dessus, je pense que tous les auteurs du livre en sont d'accord, y compris Julien et moi, c'est que nous vivons le dernier quart d'heure au sens métaphorique du terme, de la solution biétatique. C'est-à-dire, si cette fois-ci, cette candidature à l'ONU n'aboutit pas, soit qu'il y ait un veto américain, soit qu'il n'y ait pas les 9 voix au Conseil de sécurité, soit que l'Assemblée générale ensuite n'en tire pas, si Israël ne tient aucun compte, de toute façon, des décisions de l'ONU, on sera à relativement court terme devant le choix stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la direction palestinienne et ceux des Israéliens qui partagent l'idée que les Palestiniens ont droit à l'autodétermination seront confrontés à un véritable débat stratégique, indépendamment du détail de ce qu'on peut penser. Moi, personnellement, j'ai tendance à dire que la Palestine était oubliée, y compris dans les révolutions arabes. Elle n'était pas présente d'une manière visible, même si elle était en soubassement de tout ça. La direction palestinienne de l'autorité a réussi à remettre la Palestine au cœur de l'actualité et à faire que, à la fois, beaucoup d'États votent pour elle. Je me méfie sur les 107 parce que un certain nombre d'États ont été sensibles à l'argument qui consistait à dire c'est d'abord à l'ONU de se prononcer et pas à l'UNESCO. Donc, quand je regarde les 14 voix qui ont voté contre, il y a quand même tous les micro-États du Pacifique dont je ne pense pas que le oui ou le non soit très profond. C'est aussi des voix qu'on achète. Quand on regarde pourquoi la Pologne ou la Tchéquie ont voté contre, on est dans des phénomènes plus intérieurs des pays ex-communistes que dans des phénomènes de... Enfin bref.
Et la relation aux États-Unis.
On pourrait épiloguer. Ce qui est sûr, c'est que la Palestine s'est remise au centre, qu'elle a un soutien international et dans les opinions considérables, et que, de plus en plus, il est difficile pour les Occidentaux de mener le jeu hypocrite qui était le leur. La preuve, d'ailleurs, c'est que la France a été contrainte de voter pour, peut-être pour ensuite mieux s'abstenir à l'ONU. C'est une manière de jouer. Mais enfin, les petites phrases qu'on entend dans les micros soi-disant coupés, où Sarkozy dit à Obama « Ce Netanyahu est un menteur », et Obama lui dit « Ah oui, mais moi je dois traiter tous les jours avec lui », je ne crois pas aux micros coupés. Je crois que le message est clair, on dit à Netanyahou, ça commence à bien faire, il y a un ras-le-bol mondial à l'égard de la politique de ce gouvernement qui se sent, et ça va au-delà, je dirais, de la question des votes. Et...
Oui.
Si vous voulez, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on n'a jamais eu un tel consensus international dans les opinions et dans les gouvernements autour du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et jamais en face un gouvernement israélien aussi fermé. Il faut dire qu'il est dirigé par des gens de droite et d'extrême droite.
Alors effectivement, on posera la question de savoir pourquoi la mise en œuvre d'une solution est-elle de plus en plus problématique. Je voudrais juste revenir sur une question, Dominique Vidal. Vous disiez que la Palestine était remise au centre des conversations à l'échelle internationale. Elle a été poussée en cela, la Palestine, par les propos du président américain Barack Obama, qui semblait montrer le chemin. Et puis tout à coup... Washington lâche. Vous comprenez ce qui s'est passé et ce qui se passe ?
C'est malheureusement assez simple de le comprendre. C'est-à-dire, vous avez deux niveaux d'explication. Un niveau de fond, c'est-à-dire que l'alliance entre les États-Unis et Israël est une donnée fondamentale de la politique extérieure américaine, même s'il y a débat aujourd'hui dans l'establishment américain pour savoir si ça n'est pas plus coûteux que profitable. On le voit, y compris dans l'armée américaine, au Pentagone, etc. Ça, c'est le fond. On n'a pas encore basculé dans l'idée qui est celle d'hommes comme ceux qui ont mené le surge en Irak et qui disent « Arrêtez, ce qui se passe avec Israël nous coûte l'Irak, l'Afghanistan, etc. » Ce qui est peut-être d'ailleurs un peu exagéré. Et puis, vous avez un deuxième niveau d'explication qui est tout simple, c'est que le candidat Barack Obama pensent qu'il faut qu'ils n'affrontent pas Netanyahou. Donc, le lobby pro-israélien, dont je rappelle qu'il n'est pas seulement juif, mais aussi chrétien conservateur, peut-être surtout chrétien conservateur aux États-Unis, et donc il fait profil bas, c'est peu de le dire, pour essayer d'être réélu. Donc, si vous voulez, on est là dans quelque chose, mais qui a joué et qui joue, parce qu'on est en même temps dans une opinion, je le disais, très favorable à la cause palestinienne, et dans l'année des révolutions arabes, qui n'ont pas fini leur cycle, loin de là. Mais enfin, la cause palestinienne est portée comme jamais elle ne l'a été. Donc le fait que Barack Obama la trahisse, pour dire les choses simplement, quand on relit le discours du Caire et qu'on compare à ce qu'il a dit à l'ONU, on est quand même effaré. Sarkozy au milieu, semblant... fait un slalom un peu compliqué, il ne doit pas être très doué pour le ski, parce que ça se voit quand même, on vote pour d'un côté, on s'abstient de l'autre, tout ça n'est pas bien clair, et puis l'Europe, qui malheureusement est engluée dans bien pire que cette question-là, mais elle est aussi engluée sur cette question-là par ces divisions.
En tout cas, en cette année 2011, septembre 2011, il y avait une véritable fenêtre, Julien Salingue, pour les Palestiniens.
Une fenêtre pour reparler de la Palestine et de la question palestinienne, oui, probablement. Une fenêtre pour la démarche à l'ONU, de toute évidence. Il y a eu une surestimation de la part, je pense, de la direction de l'autorité palestinienne, des tergiversations de Barack Obama. C'est-à-dire que du côté palestinien, on a fait le pari que le processus dans le monde arabe allait pousser Barack Obama à s'adapter et à relativiser son soutien à Israël. Donc, peut-être à être plus sensible aux arguments palestiniens. Je pense que c'était une erreur de calcul, parce que tout simplement, les États-Unis ont perdu un allié dans la région, c'est Moubarak. Ils peuvent en perdre d'autres. C'était une erreur, je pense, de croire qu'ils allaient, à ce moment-là, tourner le dos à leur principal allié dans la région. Au contraire, la logique voulait qu'ils se rapprochent de ceux qui représentent leur allié stable dans la région. Par contre, ce qui est certain, c'est que le climat et le contexte créés par le bouleversement actuel dans le monde arabe, c'est évidemment une opportunité pour refaire parler de la question palestinienne, et y compris pour la reposer à l'échelle régionale. Parce que c'est là où les choses peuvent aussi bouger, et c'est là où en partie les choses ont déjà bougé. C'est-à-dire qu'avec la chute de Moubarak, même si le processus révolutionnaire égyptien est loin d'être achevé, il y a quand même un isolement de l'État d'Israël, y compris dans la région, par rapport à ses alliés historiques qui étaient l'Égypte, la Jordanie et...
Et la Turquie.
Et la Turquie. Si on va au-delà du monde arabe, par exemple, le blocus de Gaza n'a pas encore été levé complètement côté égyptien, mais on a vu que les choses ont bougé assez rapidement après la chute de Moubarak. De même qu'aujourd'hui, Israël est en train de chercher des pistes alternatives pour se procurer les hydrocarbures, parce qu'ils savent qu'avec l'Égypte, les choses peuvent devenir de plus en plus compliquées. Donc, ils regardent du côté du Qatar. Donc, cet affaiblissement dans la région de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui, effectivement, crée un climat plus favorable aux Palestiniens à partir du moment où ils pensent la chose à l'échelle régionale. Et c'est là peut-être où la démarche à l'ONU, en fait, s'arrête au milieu du gué. C'est-à-dire que ça reste strictement l'État de Palestine, sans penser comme étant les Palestiniens dans la région, dans leur environnement régional, dans l'environnement arabe, où là, c'est un autre rapport de force que le tête-à-tête avec Israël.
Si vous me permettez, Marie-France Chatin, je crois que c'est une question qui dépasse l'actualité. Je crois qu'une des erreurs historiques de la direction palestinienne, Hamas compris d'ailleurs, c'est de ne jamais avoir compris que, contrairement à ce que disait Sadat, ce ne sont pas les Américains qui ont 100% des cartes. Que les cartes, elles sont aussi dans les peuples de cette région, et au-delà les peuples du monde, qui eux peuvent peser pour faire contrepoids à l'extraordinaire dissymétrie des forces entre Israéliens et Palestiniens. Et donc, on a eu pendant des années, c'est pas d'aujourd'hui, une direction palestinienne qui regardait toujours vers Washington et qui ne regardait pas d'abord vers Israël, vers la population israélienne, avec l'extraordinaire contradiction d'une population qui n'a qu'une envie, c'est de vivre en paix, et qui en même temps soutient, pour des tas de raisons qui sont peut-être pas à l'ordre du jour aujourd'hui de notre conversation, un gouvernement qui va à l'inverse. Donc il n'y a jamais eu vraiment de travail en direction de l'opinion israélienne, et même sur l'opinion mondiale. Je veux dire, il a fallu attendre l'été dernier pour entendre le président Hamas du Conseil législatif palestinien dire « les flottilles de la paix nous ont fait plus de bien à nous, Gazaouis, que tous les missiles tirés sur Sderot ». Vous voyez, il a fallu combien d'années pour que cette dimension des opinions, de l'opinion israélienne, des opinions mondiales, prenne toute la place qu'elle méritait dans la réflexion palestinienne. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le court terme, là. On est dans un problème de long terme. Il faut bien dire que le fait majeur de l'année, c'est ces mouvements populaires dans le monde arabe, mais aussi en Israël, mais aussi les indignés de toutes sortes et à des degrés divers. On est dans un surgissement des sociétés. Cette nouvelle donne, elle est aussi une nouvelle donne arabe et palestinienne.
Donc les choses bougent. On en revient au sujet du jour. Un État, deux États, Palestine, Israël. Vous disiez, Dominique Vidal, qu'on assistait au dernier quart d'heure de la situation bi-étatique.
Je répète ce que j'ai dit en quelques mots. L'intransigeance du gouvernement israélien, l'échec donc de presque 40 ans de lutte diplomatique de la part des Palestiniens, diplomatique seulement. Peut-être que ce qui manquait, c'était la politique dans tout ça. Et le constat d'un isolement sans précédent d'Israël, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus que l'isolement actuel ? Ça pose la question de la stratégie. Donc la question est posée de savoir si on peut encore se situer dans la perspective qui était celle du partage de la Palestine par l'ONU en 1947, un État juif, entre guillemets, un État arabe, entre guillemets, une zone internationale pour Jérusalem, et s'il ne faut pas changer de cap et aller vers l'idée d'un seul État. Alors quel État ? Est-ce que c'est un État unique ? Est-ce que c'est un État binational ? Est-ce que c'est un État du type post-apartheid, Afrique du Sud ? Je veux dire, un homme, une voix. Ça, c'est un sous-débat dans le débat. Mais le débat fondamental, c'est est-ce qu'on a encore une fenêtre, comme vous dites, d'opportunité pour un État palestinien aux côtés d'Israël, ou bien est-ce qu'il faut avoir un seul État dans lequel les juifs, les musulmans, les chrétiens, etc., vivent ensemble et règlent ensemble les problèmes qui leur sont posés. Et ça, évidemment, c'est le thème de ce livre, non pas comme un affrontement de dogmes, mais comme la réalité d'un débat qui mérite d'être éclairé, domaine par domaine, histoire, droit, économie, démographie, etc., et éclairé par des gens qui, non seulement sont des experts, les auteurs de ce livre, mais qui sont d'opinions, de sensibilités diverses. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ne cachent pas qu'ils sont favorables à un État, d'autres qui pensent que la solution bi-étatique doit encore avoir ses chances. Bref, on a essayé de faire le livre le plus honnête possible, le plus ouvert possible, qui permette à chacun de se faire une idée, et disons, dans un français ou dans une démarche qui soit pédagogique, qui soit accessible, qui ne soit pas un texte rébarbatif. Alors, ça, c'est à vous de dire si c'est réussi ou non.
Tout à fait. Pour terminer cette première partie d'émission, j'ai envie de vous poser la question, Dominique Vidal, de qui dépend cette orientation, finalement ? Est-ce que une décision à l'ONU d'admission de la Palestine peut changer les choses ?
Si le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale admettaient la Palestine comme État membre à l'ONU, ce qui ne me paraît pas pour l'instant prévisible. On n'est pas Madame Soleil, mais enfin, oui, ça changerait la donne, puisque ça ouvrirait encore un dernier moment. Mais sinon, non, on est effectivement, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, dans un débat stratégique qui mérite d'être mené, et qui, je le répète, faut-il le dire, est l'affaire des Palestiniens, parce que c'est de leur avenir qu'il s'agit, et de ceux des Israéliens qui soutiennent le droit à l'autodétermination des Palestiniens. C'est pas nous, à Paris, qui allons décider à la place des Palestiniens ou des Israéliens.
Bien évidemment, mais vous êtes là pour éclairer et pour expliquer la façon dont les choses pourraient se passer. Vous partagez, Julien Salingue ?
De dire que c'est pas nous qui devons décider, oui. Mais par rapport effectivement au timing, entre guillemets, c'est sûr que de toute façon, après la session de l'ONU, il y aura un débat posé chez les Palestiniens, y compris au sein de l'autorité palestinienne, sur la question de la refondation stratégique et organisationnelle, en réalité, du mouvement national palestinien.
Géopolitique, le débat, nous retrouvons nos invités Dominique Vidal et Julien Salingue dans quelques instants. À tout de suite.